Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marc Doucet, donc je vais commenter le sujet d'introduction à la comptabilité, donc de la session 2019. Tout d'abord, bien sûr, le sujet lui-même, et puis quelques commentaires concernant la correction. Ceci dit, vous l'aurez bien sûr sur votre plateforme très rapidement. Il n'y a pas de souci de ce point de vue. Alors, d'abord les généralités. Ce sujet est un classique, hein, c'est-à-dire avec des questions de cours, avec des questions portant sur des opérations courantes et des questions portant sur des opérations d'inventaire. Donc, de ce point de vue, très honnêtement, pas de surprise, pas de scandale, etc., etc. Je dirais que d'un point de vue général, c'est un sujet pour lequel il était relativement aisé pour quelqu'un qui avait travaillé tout au long de l'année d'obtenir la moyenne. Alors, je ne dis pas bien sûr d'obtenir 17, 18, 19 ou 20, bien sûr, mais enfin, c'est qu'il y avait quand même une possibilité d'obtenir la moyenne. Maintenant, avoir 20 sur 20, c'est vrai, dans les 3 heures, pour un candidat, c'était pas évident, voire très difficile, voire quasi impossible, même si ça doit se rencontrer quand même. Mais enfin, disons qu'il n'y a pas d'horreur dans ce sujet, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas, etc., etc. Très honnêtement, c'est donc un sujet tout à fait classique. Alors, comme je vous disais, il y avait donc quatre dossiers. Le premier dossier, définition et principe de la comptabilité, qui valait 1,5 point. Deuxième dossier sur des opérations courantes, 8,5 points. Troisième dossier, opération d'investissement et de financement, qui valait 4 points. Et quatrième dossier, opération d'inventaire, qui valait 6 points. Alors, entre parenthèses, pour cette session, la calculatrice était interdite, mais très honnêtement, c'est pas ça qui posait problème compte tenu de la simplicité des chiffres à utiliser, et il n'y avait pas donc d'utilité absolue d'avoir une calculatrice. C'est pas ça qui a dû empêcher les candidats d'avoir 10 sur 20. Encore une fois, le problème, c'est de le faire en 3 heures pour avoir 20 sur 20. Ça, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est autre chose. Mais avoir la moyenne, c'était objectivement classique. Encore que, on va le voir, à l'intérieur des dossiers, il peut y avoir quand même quelques difficultés. Mais pour glaner des points, il fallait quand même, c'était quand même abordable tout à fait, très honnêtement. Alors, premier dossier, donc définition et principe de la comptabilité. Alors là, c'est du cours, hein, comme à Cantalia, on vous le dit souvent, hein, les problèmes dans le jour des examens, il y a de plus en plus, avec le temps qui passe, de plus en plus de questions portant sur la théorie. Le cours, et que ce soit Didier Coudor ou moi-même, souvent nous vous avons conseillé de bien réviser ces parties de cours qui tombent assez régulièrement. Première question, indiquer l'organisation chargée d'accompagner l'évolution du droit comptable, expliquer comment elle procède. Alors, l'organisation en elle-même, c'est l'ANC, ça, il n'y a pas de difficulté majeure, ça me semble. Maintenant, allez vous embêter. Alors là, il faut toujours, bien sûr, chercher la petite bête, expliquer comment elle procède, savoir que c'est publié au journal officiel, après homologation par arrêté du ministre de l'économie et des finances, et après avis du garde des Sceaux et du secrétaire d'État chargé du budget. Bon, vous voyez, ça, c'est vrai que, bon, on aurait pu se passer de cette question qui ne remet pas en cause l'avenir de l'humanité. Mais bon, ça fait partie du sujet, donc dont tac. Enfin, si vous n'avez pas su comment l'ANC procède pour appliquer les règlements, c'est pas ça qui vous empêchera d'avoir la moyenne. Faut pas exagérer non plus, d'accord? Donc, à part ce petit point-là sur cette question, il n'y avait pas de difficulté si vous avez bossé le cours. Après, pareil, citer les documents de synthèse obligatoires, expliquer l'objectif de chacun d'eux. Bon, ben là, hein, je ne vais pas m'étaler. Le compte de résultat, le bilan et l'annexe, là aussi, ça fait partie du cours. Troisième question, définir les notions d'actifs et de passifs. Là aussi, dans le cours que j'ai écrit, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est qu'un actif? Qu'est-ce que c'est qu'un passif? Donc là, de ce point de vue, pas d'ambiguïté. Ils auraient pu demander qu'est-ce que c'est qu'une charge, qu'est-ce que c'est qu'un produit, là aussi c'est dans le cours, qu'est-ce que c'est que le grand livre, qu'est-ce que c'est que la balance, tout ça c'est dans le cours, bien entendu, par exemple, vous voyez, c'est un grand classique. Ensuite, deuxième dossier, donc les opérations courantes. Alors là, plusieurs parties. D'abord, une partie sur des opérations courantes du mois d'octobre. Une première question, expliciter ce que recouvre l'expression « port facturé » dans l'opération du 2/10/2018. Donc bon, ben là, pas de difficulté pour ceux qui ont suivi le cours que j'ai écrit. Là aussi, le port facturé, c'est évidemment que on en parle. J'ai un chapitre là-dessus, ou une partie de chapitre sur tout ce qui est facturation à ce sujet, donc il n'y avait pas de difficulté, très honnêtement. Après, présenter les factures d'origine, on va dire, et factures d'avoir. Là non plus, il n'y avait pas de piège, ni au niveau du montant des chiffres, ni au niveau de la présentation, hein, pour ceux qui, encore une fois, et comme tout le temps, bien sûr, qui avaient travaillé, pas de soucis, faire apparaître le net commercial, la TVA, la remise, évidemment, les frais de port, etc., etc., la facture d'avoir, bien sûr, ne pas oublier la remise qui existait à l'origine et le rabais supplémentaire. Disons que c'était peut-être sur l'avoir que là il y avait l'histoire du rabais supplémentaire qui aurait pu peut-être pour certains d'entre vous poser des difficultés, mais bon, c'était pas monstrueux. Après, troisième question, enregistrer les opérations du mois d'octobre dans le journal de l'entreprise Robotics. Bon, ben là aussi, hein, que je voulais que je vous dise, hein, c'est un grand classique, hein, avec des factures d'origine, des factures d'avoir, avec des emballages, mais concernant les emballages, pas de difficultés majeures là, pas d'histoire, puisqu'ils étaient repris au prix de consignation. Enfin, vous voyez, il n'y avait pas d'embrouille majeure. Un petit point quand même, hein, parce qu'il faut bien trouver quelques difficultés quand même, c'est que pour la cession, pour l'emballage qui était non rendu, il faut penser que c'était un emballage qui était considéré comme un récupérable identifiable, donc considéré comme une IMO dans l'entreprise, donc pour l'emballage, donc la caisse qui n'a pas été rendue, et que donc le client a gardé chez le fournisseur, c'est considéré donc comme une vente lié à une IMO. Donc c'est plus un produit de cession d'éléments d'actifs qu'il faut utiliser. Bon, ça c'était un peu délicat, je suis pas sûr que tout le monde l'ait vu, mais enfin là aussi vous voyez, c'est un compte parmi tous les comptes utilisés. Pour le reste, je pense qu'il n'y avait pas de difficulté majeure, très honnêtement. Ensuite, partie B, taxe sur la valeur ajoutée. Alors, première question, expliquer à quoi correspond un crédit de TVA. Bon, ben là, voilà, hein, ça aussi, c'est un grand classique. Ça, c'est cadeau, j'allais dire, hein, comme question. Et deuxième question, présenter les calculs permettant de déterminer le montant de la TVA due ou du crédit de TVA au titre du mois de septembre, et présenté sous forme de tableau. Alors là non plus, alors évidemment, si vous n'avez pas posé le cours, il y a notamment tout ce qui était intracommunautaire, c'est difficile à savoir. Mais si vous avez bossé le cours, vous avez dans le cours, dans les lives, dans les cas pratiques, dans les devoirs, etc., etc. X fois, on a abordé ce problème, et avec Didier Coudor, il vous l'a traité en plus des vidéos que j'ai pu faire, etc. Donc, très honnêtement, il n'y avait pas de difficulté majeur là non plus. Alors évidemment, faire le tableau, etc., ça prenait du temps, un petit peu de temps, mais disons que franchement, pas d'horreur comme on a pu voir pour certaines années. Alors évidemment, du coup, une fois qu'on a fait le tableau, question 3, bien sûr, enregistrer dans le journal de l'entreprise Robotics l'écriture de liquidation de la TVA liée au mois de septembre 2018. Bon, mais là, une fois qu'on a fait le tableau, ça c'est pas difficulté, bien sûr. Quatrième question, là aussi, pour ceux qui ont bossé le cours, il n'y a pas de difficulté, puisque c'était d'écrire les deux possibilités qui peuvent s'ouvrir à l'entreprise liées au solde de TVA obtenu pour le mois de septembre. Il s'agissait d'un crédit de TVA qui apparaît, et ça, là aussi, je l'ai écrit dans le cours, bien entendu, qu'en cas de crédit de TVA, la plupart des entreprises le reportent sur le mois d'après, mais elles peuvent demander le remboursement à l'administration fiscale. Alors sur certaines conditions, on ne va pas rentrer dans les détails ici, et que ce n'est pas l'objet, mais enfin disons que c'est soit, comme la plupart des entreprises qui le font, c'est reporter le déficit, le crédit TVA sur en déduction le mois d'après, soit par exemple, notamment c'est le cas si on ne fait que des importations hors communauté européenne et qu'on a payé de la TVA et on serait tout le temps en crédit de TVA, à ce moment-là on demande le remboursement tout simplement. D'accord ? Troisième dossier, opération d'investissement et de financement. Bon là, deux parties, une opération d'investissement puis après une opération les opérations de financement. Pour les opérations d'investissement, première question, en vous appuyant sur les critères de définition d'un actif, justifiez le fait de considérer l'imprimante comme telle. Bon, ben là, c'est pareil, ça c'est lié au cours, hein, dans mon cours là aussi, qu'est-ce que c'est qu'un actif ? Un actif est un élément identifiable du patrimoine, etc. etc. Il faut qu'il y ait une notion d'élément identifiable, des notions d'avantages économiques futurs, des notions de ressources contrôlées, donc ça, c'est dans le cours, voilà, il fallait s'en souvenir. Bon, c'est pas, je reconnais bien volontiers que c'est pas évident de se souvenir de tout, mais enfin, disons que ça, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté, c'était dans le cours, il n'y a pas d'impasse ou quoi que ce soit. Deuxième question, préciser les éléments retenus pour le calcul des valeurs d'entrée pour l'imprimante 3D et la graveuse chimique dans le patrimoine de l'entreprise, puis calculer ces valeurs. Bon, ben là, pareil, hein, c'est du cours pur, hein, imprimante 3D, donc il faut, la valeur d'entrée, c'est le prix d'achat plus éventuellement les frais accessoires, donc ça, voilà, grand classique, franchement, hein, les frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien, ça c'est pour l'imprimante 3D. La graveuse chimique, alors là, c'était un peu plus rare, mais ceci dit, ça aussi, c'était dans mon cours. Comment on fait pour rentrer en comptabilité une IMO acquise à titre gratuit? Donc ça, évidemment, alors évidemment, c'est pas tous les jours. Là, c'est vraiment, allez, vous cherchez la petite bête. Hein, c'est pas tous les jours que des entreprises, on leur fait cadeau d'une immobilisation. Mais ça existe. Ça fait partie du principe. C'est inscrit dans le cours, bien entendu. Et c'est la valeur d'entrée de l'IMO gratuite. C'est à ce moment-là la valeur qu'elle vaudrait sur le marché d'occasion, okay, moins le coût de sortie s'il y avait un coût de sortie. Ben là, c'était le cas. Ce qui fait que la valeur d'entrée hors taxe de l'IMO, c'est 1500, la valeur de marché, moins le coût de sortie qui était 200, ça fait la valeur d'entrée. D'accord ? Alors après, troisième question, pour aussi bien l'imprimante 3D que la graveuse chimique, enregistre au journal les écritures du mois de novembre 2018 relatives à ces deux acquisitions. Bon, mais là, pas de difficulté majeure. D'abord, pour l'imprimante 3D, le versement d'un acompte, hein, au départ. Bien penser que c'est bien un crédit de compte 2, hein, un débit de compte 2, excusez-moi, 238.5, avancé à compte versé sur commande d'immobilisation corporelle et pas un 409 ou de quelque chose de cet ordre, puisque là on est plus dans le, on est dans le avancé à compte sur IMO, mais là aussi c'est pas ça qui vous aurait empêché d'avoir 10, vous voyez, faut pas exagérer, pas s'inquiéter outre mesure. Ensuite la facture d'achat, bon ben là pas de difficulté, voilà. Et pour la graveuse chimique, là, bon, ben, comme ça a été donné, là aussi, il fallait se souvenir du cours. On débite le compte d'IMO concerné, donc 21,54 ici, et on crédite autres produits exceptionnels divers pour la remise gratuite de la graveuse par le laboratoire. Ensuite, la partie B, opération de financement. Alors, il y avait deux possibilités de financement, remboursement par emprunt par annuité constante ou bien in fine, donc ça c'était les deux possibilités, et le choix, ben, l'entreprise, évidemment, elle va choisir ce qui lui coûte le moins cher, et là, elle choisit donc le remboursement par annuité constante, puisque avec ce système, les intérêts descendent, diminuent plus vite, il y a moins d'intérêts quand on globalement que par le remboursement in fine, puisque le remboursement in fine, par définition, il n'y a pas de remboursement de capital tout au long de l'année, donc les intérêts sont les mêmes et calculés sur la valeur totale de l'emprunt et sur toute la période, et donc arithmétiquement, c'est plus important. Là aussi, pas de difficulté majeure, puisque, et c'était dans le cours, inutile de vous le dire, de vous le rappeler s'il en était besoin. Ensuite, présenter la première ligne du tableau de remboursement de l'emprunt. Alors là, évidemment, et heureusement, ils ont donné, comme c'était par annuité constante, ils nous donnaient le montant de l'annuité, donc il n'y avait pas de difficulté. C'était la première année. Donc, on n'avait pas besoin de calculatrice énorme. Hein, si c'était toutes les années, bon voilà, avec des intérêts, on aurait pu être ennuyé. Encore que c'était avec 5%, donc c'était pas non plus monstrueux. Mais bon, on avait les informations nécessaires pour le faire. Et puis ensuite, troisième question, enregistrer la mise à disposition des fonds et paiement de la première annuité, grand classique, pas de difficulté majeure. Et on arrive donc au quatrième dossier, opération d'inventaire. Alors là aussi, ça fait partie des grands classiques, et en particulier pour le dossier A, construction d'une graveuse. Il s'agit en fait ici d'une production immobilisée, c'est-à-dire la construction d'une immo par l'entreprise pour elle-même. Alors là, inutile de dire, là aussi, ça tombe régulièrement. On peut pas dire que c'est une surprise, d'accord ? Donc voilà. Première question, justifier, déterminer la valeur d'entrée de la graveuse dans le patrimoine. Bon ben là, c'est du cours hein, aussi, il faut le savoir bien sûr, hein, que c'est valoriser les IMO fabriqués par l'entreprise pour elle-même, c'est valoriser, évaluer au coût de production, que le coût de production, ça intègre les matières premières, etc., qui ont été consommées dans la période pour fabriquer l'IMO, les charges directes et indirectes de production. Okay, donc comme la main d'œuvre par exemple, mais aussi l'énergie, les amortissements les parts d'amortissement des machines qui auraient pu servir à construire l'immobilisation par exemple, etc., etc. Donc là, on nous donnait les informations pour calculer cette valeur d'entrée puisqu'on avait les différentes charges liées à ça, donc c'était pas très difficile. Ensuite, deuxième question, enregistrer l'achèvement de la graveuse au 30 juin 2018. Bon ben là aussi, hein, c'est non seulement c'est dans le cours, il y a des vidéos, il y a des lives, il y a des gravatiques, c'était en devoir, donc pas de surprise, grand classique, normal, hein, bien sûr, on supprime le compte d'IMO en cours et on crée la production immobilisée de l'année, et bien sûr on débite du coup le compte d'IMO qui est terminé pendant l'année, donc on débite le compte 2154 pour la totalité de la valeur de l'IMO une fois qu'elle est terminée, valeur d'entrée 2500, on crédite le 2315 IMO en cours, donc on supprime, on solde le compte d'IMO en cours qui avait été créé l'année précédente parce que l'IMO en cours n'avait pas été terminé, et on crédite le compte production immobilisée 722 pour le montant qui a été fabriqué pendant la période, c'est-à-dire pendant l'année 2018. D'accord ? Troisième question, décrire l'incidence de la construction de cette graveuse sur le résultat des exercices 2017 et 2018. Alors là, c'était peut-être que certains d'entre vous ont eu du mal à répondre à cette question, mais en même temps, quand on réfléchit un tout petit peu, qu'on a compris le principe, et le principe en fait est lié ne serait-ce qu'à la question 1, à la valeur d'entrée, c'est-à-dire que c'est tout simple, c'est-à-dire que quand on pourrait penser au premier abord que en termes de résultats, l'entreprise va être imposée sur le montant de la production immobilisée puisqu'elle va créditer le compte 722 production immobilisée, mais il faut penser que en fait, le montant qui est crédité de la production immobilisée est compensé par ce qui a été débité pendant l'année lié aux charges pour construire cet IMO. Autrement dit, par exemple, l'année dernière, le compte de 722 production immobilisée avait été crédité pour 1 800 euros. Mais ces 1 800 euros, ça venait pas de n'importe où. Ça correspondait exactement au montant des charges qui avait donc été enregistré pendant l'année 2017 au débit d'un compte 6 pour 1 800 euros. Donc, sauf que c'était réparti en plusieurs charges. Je sais pas, hein, comme je vous disais tout à l'heure, des achats de matières premières, des frais d'électricité, des frais de personnel, tout ça. Ben, la somme de ces charges liées à ça, ça faisait 1 800 euros. Donc, il y avait une charge pour 1 800 euros l'année d'avant, et il a été crédité l'année d'avant 722, donc 1 800. Donc, vous voyez, en termes de résultats, ça fait zéro. Il n'y a pas de, voilà. Petite subtilité, bon, je l'ai pas intégré dans la coaction, mais là je pourrais dire, il y a quand même une petite incidence, mais qui est liée en fait au fait qu'on devient propriétaire maintenant de l'IMO, et donc il faudra l'amortir. Donc ça engendrera des amortissements, mais de la même façon que si on l'avait acheté au lieu de la faire pour soi-même. La question était plutôt sur le fait que certains d'entre vous auraient pu, enfin, ont pu répondre malheureusement que ça augmentait les produits et donc on allait être imposé dessus. Non, ça n'augmente pas le résultat, ça n'a pas d'incidence sur le résultat, c'est neutre parce que ce qu'on met au crédit des comptes 7 correspond à ce qui a été mis au début des comptes 6, donc en termes de résultats, c'est nul. D'accord? Donc voilà. Ensuite, préciser la condition qui doit être remplie pour pouvoir amortir cette graveuse. Donc là, c'est donc la définition du numéro amortissable. Donc il n'y a pas de difficulté. Enfin, il n'y a pas de difficulté. Excusez-moi. Quand on connaissait le cours, hein, bien sûr. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, procéder à l'enregistrement comptable de l'amortissement. Bon, ben là, franchement, il n'y a pas de souci, hein. C'est un enregistrement classique, un débit de 681, un compte 28, hein, donc pas de souci. Ensuite, la dernière partie, là aussi, franchement, grand classique, des régularisations diverses. Alors, là aussi, première question, différencier l'inventaire permanent de l'inventaire intermittent, pardon. Là aussi, c'est dans le cours que j'avais écrit, donc il n'y a pas de que vous avez à votre disposition ou que vous aviez à votre disposition, donc il n'y a pas de difficulté, enfin, à part s'en souvenir, encore une fois, mais il n'y a pas de difficulté majeure. Et ensuite, enregistrer dans le journal les écritures d'inventaire nécessaires au 31 décembre. Alors là, bon, voilà, c'est comme tous les ans, c'est toujours pareil. Des créances douteuses, un litige fournisseur, des variations de stock, des dépréciations de stock, prime d'assurance annuelle d'une charge constatée d'avance, consommation EDF, une charge à payer. La seule petite difficulté qui était un peu surprenante, mais bon, ça aurait plutôt fait, à mon sens, partie de cette difficulté de la technique comptable approfondie, donc le lieu 10 du DCG plutôt que celle-là, mais enfin bon, là non plus, si vous êtes trompé là, c'est pas ça qui vous empêchera d'avoir l'examen. C'est l'histoire dans l'énoncé, on nous parlait de valeur actuelle, de valeur comptable. Attention, hein, c'est que la dépréciation qu'il faut enregistrer. Donc, faut bien penser que il ne fallait pas, comme certains ont pu le dire, que j'ai vu passer sur le net, certains qui disaient qu'il y avait des histoires de PHP, de provision pour hausse de prix. Ça n'avait rien à voir ici. C'est juste que il fallait reprendre la dépréciation qui avait été calculé l'année d'avant de 1 000 euros, puisque la valeur comptable au 31-12-2017 était de 4 000 euros. La valeur actuelle au 31-12-2017 était de 3 000, donc obligation d'enregistrer fin 2017 une dépréciation. Et on nous dit qu'au 31-12-2018, la valeur comptable et la valeur actuelle étaient la valeur comptable de 5 000 et la valeur actuelle de 5 500. D'accord? Donc là, ça veut bien dire que au 31-12-2018, la valeur actuelle est supérieure à la valeur comptable, donc pas de dépréciation à la clôture, et on doit reprendre la dépréciation qui n'a plus l'objet, qui avait été faite au 31-12-2017 et qui n'a plus lieu d'être. Donc l'histoire des provisions pour hausse de prix, ça n'avait rien à voir ici, c'est un cas très spécifique et qui n'était pas à l'ordre du jour dans cette question. D'accord? Donc, bah écoutez, voilà, hein, ce que je. Ah non, il reste encore, pardon, j'avais oublié une troisième question. Indiquez les deux principes comptables à l'origine de ces enregistrements et illustrez vos propos à l'aide des écritures passées. Un exemple par principe. Bon, moi, j'ai pris. Il y en a plein, hein, mais enfin bon, principe de prudence et principe d'indépendance ou d'autonomie des exercices. Voilà, ça aussi, c'était compte tenu des questions et des régularisations qu'il y avait dans la partie B, c'était pas là non plus très difficile. Donc, pour résumer encore une dernière fois, un sujet qui était quand même très classique du cours. des opérations courantes et des opérations d'inventaire. Donc vraiment, on peut pas dire que vous pouvez pas dire que vous étiez surpris, tombé des nues par ce qui est tombé dans le sujet. La seule chose que moi je suis prêt à reconnaître bonne volonté, c'est pour quelqu'un qui voulait avoir 20 sur 20, c'était en 3 heures, il fallait quand même se bouger un peu, c'était pas évident. Mais pour obtenir la moyenne, ça me paraît encore une dernière fois tout à fait possible. Et voilà, il y avait pas d'horreur de piège, d'accord. Donc comme j'espère que la plupart d'entre vous, vous avez suivi les conseils que j'ai pu donner ou que Didier Coudor a pu vous donner à Quantalia, à savoir commencer par répondre aux questions de cours, hein, d'accord, et ne pas s'enfermer dans un dossier et travailler à la montre en fonction du nombre de points qui étaient alloués et que vous connaissiez. Donc vous saviez en fonction des nombres de points qui étaient alloués à chaque dossier le temps théorique qui était prévu. Donc ça, c'est évidemment, vous voyez, ça c'est fondamental. Et ne pas s'enfermer dans un dossier pour vouloir absolument le terminer. Le problème, c'est que souvent, quand on fait ça, et il y a, parce que quand on est dedans, après, il y a le stress, on oublie des choses, etc. Donc, on perd beaucoup de temps et on dépasse le temps imparti en fonction des points attribués. Et du coup, ça nous pose, ou ça vous pose problème, et vous râlez après quand vous avez les résultats, parce que vous dites toujours, mais je savais le faire, cette partie-là, je l'ai pas fait. Oui, il faut, encore une fois, toujours pareil, travailler à la montre pour pas trop déborder et pouvoir traiter plusieurs points. On n'est pas obligé de faire d'abord dossier 1, puis après dossier 2 en entier, etc., etc. Le jour de l'examen, on est là pour prendre des points. Il faut travailler, j'allais dire, avoir une stratégie de grappillage de points plutôt que de faire un dossier bien propre en commençant le dossier 1, première question, petit A, et jusqu'au dossier 4, cinquième question, petit Z. Vous voyez, là, il faut prendre des points partout. Donc voilà ce que je pouvais dire. J'espère que beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, ça s'est bien passé et que vous aurez une bonne surprise quand les résultats arriveront. Alors ça, évidemment, nous à Quantalia, on n'est pas responsable de ça. Enfin, j'ai cru comprendre que, bon, comme tous les ans, ce sera probablement dernière semaine d'août ou début septembre si tout va bien. Donc voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour la plupart d'entre vous. En tout cas, bon courage et à bientôt pour d'autres yeux si vous suivez notamment la finance et le contrôle de gestion. J'aurai le plaisir de vous revoir et de discuter avec vous par l'intermédiaire du forum. Bon courage, au revoir.